Europe 1, le 22-22-30, Rémi Botsaron.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit. On est ensemble pour une demi-heure d'infos. Il est pratiquement 22h sur Europe 1. C'est une bouffée d'air frais que le gouvernement pourrait offrir à de nombreuses entreprises affectées par la crise. Leurs dettes pourraient être effacées, annonce faite aujourd'hui par Bruno Le Maire. Les déboires du vaccin de Johnson & Johnson suspendus aux États-Unis, son déploiement est suspendu en Europe. Quelles conséquences pour la campagne vaccinale française? La réponse d'Anne Le Gall. Dans les Vosges, la petite Mia est toujours portée disparue après son enlèvement hier et c'est le profil de sa mère qui n'avait plus sa garde qui intéresse aujourd'hui particulièrement les enquêteurs. Elle pourrait être impliquée dans ce rapt. Le meurtrier de Sarah Halimi ne sera pas jugé, c'est confirmé. La Cour de cassation a confirmé son irresponsabilité pénale. La déception est immense pour la famille de la victime. C'est l'auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire qui est mort aujourd'hui. Bernard Madoff s'est éteint à l'âge de 82 ans. Il purgeait une peine de 150 ans de prison. Et puis c'est une nouvelle histoire d'apprenti boulanger menacé d'expulsion à Grande-Synthe dans le Nord. Et comme à Besançon il y a quelques mois, son employeur et une partie de la population se mobilisent. À 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Il recevra Thierry Millon, directeur des études chez Altares, pour évoquer les premiers signaux d'alerte sur les faillites d'entreprises. Au programme également, la bourse avec Didier Hamo et vos prévisions météo pour demain. De la neige en montagne à l'est, du soleil sur la façade ouest. C'est en résumé ce que nous dira Anissa Haddati.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Alors que la France s'apprête à franchir la barre des 100 000 morts liées à l'épidémie de Covid-19, alors que le gouvernement a confirmé aujourd'hui la tenue d'une cérémonie d'hommage et de deuil de la nation, mais sans en préciser la date, la bouffée d'espoir du jour est à chercher du côté des entreprises. Avec cette annonce du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, la dette de celles qui ont été les plus affectées par la crise pourrait être effacée. Et Maud Descamps, cet effacement de la dette, pour certaines, c'est tout simplement une question de survie.
Exactement, un grand nombre d'entreprises sont en manque d'activité et n'ont plus de quoi rembourser leurs emprunts ou de payer leurs impôts. D'ici quelques semaines, donc, un dispositif sera mis en place pour proposer d'étaler ou d'annuler partiellement leurs dettes. Tout cela va être étudié au cas par cas, précise-t-on à Bercy. On va faire de la dentelle, m'a-t-on dit. Un objectif clair. Une entreprise saine doit pouvoir survivre à cette crise. On sait que certains secteurs sont particulièrement touchés, comme l'événementiel, où l'activité ne repartira pas au niveau d'avant-crise du jour au lendemain, ou encore l'aéronautique, où il n'y a pas de perspective de reprise avant 2 ou même 3 ans. Et donc, à Bercy, on dit vouloir réagir avant que ces entreprises ne puissent plus se relever. Quant au coût de ce nouveau coup de pouce, il n'y a pas d'enveloppe, nous précise-t-on au ministère, tout en rappelant tout de même que nous sommes dans le quoi qu'il en coûte.
Merci Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Cette annonce de Bruno Le Maire suscite évidemment la satisfaction du président de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, François Asselin, qui voit même déjà plus loin.
C'est l'idée du gouvernement, donc c'est un premier pas. Nous le saluons, nous l'accompagnons et nous continuons à travailler auprès de Bruno Le Maire et de ses équipes pour aller un petit peu au-delà et imaginer ce que pourrait être ce fameux prêt de consolidation qui permettrait vraiment d'éviter à ces entreprises tout simplement d'être en défaillance de paiement. Et là, bien évidemment, quand c'est comme ça, on peut risquer des faillites en cascade parce que les entreprises, vous savez, sont toutes clients et fournisseurs les unes des autres. Et certaines entreprises qui avaient un modèle économique tout à fait viable se retrouvent devant un mur de dette qu'elles ne peuvent pas franchir. Et donc, si on ne met pas de mesures spécifiques pour étaler la dette de ces entreprises, ce mur de dette, malheureusement, elles vont péricliter alors qu'elles ont un modèle économique tout à fait viable si on leur permet d'étaler ce qu'elles ont accumulé en termes de dette.
François Asselin, président de la CGPME, interrogé pour Europe 1 par Aurélien Fleureau. C'est également pour offrir un horizon un peu plus lumineux aux Français qu'Emmanuel Macron doit réunir demain une partie de ses ministres pour évoquer les modalités d'une possible réouverture des terrasses de cafés, de restaurants et ainsi que de lieux culturels d'ici à la mi-mai. Le président de la République a déjà fait une autre annonce aujourd'hui à destination, cette fois, des enfants chez qui la crise sanitaire aurait fait provoqué des troubles psychiques. Il s'agira d'un forfait de 10 séances prépayées chez un psychologue, annonce faite donc par Emmanuel Macron au cours d'un déplacement au CHU de Reims. sur le front de la campagne vaccinale. C'est le sérum de Johnson & Johnson, également appelé Janssen, qui soulève des questions aujourd'hui après sa suspension aux États-Unis pour enquêter sur des cas graves de caillots sanguins. L'Agence européenne du médicament doit-elle se prononcer la semaine prochaine? En attendant, Anne Le Gall, qu'est-ce que ça change pour nous en France?
Alors la restriction d'âge aux plus de 55 ans pour le vaccin Janssen, qui a été rappelé par Gabriel Attal ce matin, n'est pas un problème, puisque la vaccination n'est pas ouverte pour l'instant aux Français plus jeunes. Si on a des doses, les injections avec Janssen pourraient donc démarrer la semaine prochaine comme prévu en France. Tout dépendra en fait de l'avis de l'Agence européenne du médicament, qui pour l'instant estime toujours que la balance bénéfice-risque est favorable. Se pose maintenant la question des livraisons, parce que pour l'instant le laboratoire Johnson & Johnson a suspendu le déploiement de ses vaccins en Europe. 200 000 doses de ce sérum sont déjà arrivées en France et sont en train d'être acheminées vers les médecins et les pharmaciens. Mais nous en attendons 600 000 pour tout le mois d'avril, 8 millions d'ici juin. Et c'est l'avis des experts européens qui permettra sans doute de tout débloquer. Mais si jamais il y a des retards, rappelons quand même qu'en avril-mai, les vaccins Janssen représenteront moins de 16% du total des livraisons attendues en France.
Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Un mot d'un autre vaccin qui suscite des remous, celui d'AstraZeneca. Il est désormais totalement exclu de la campagne de vaccination au Danemark. C'est le premier pays d'Europe à prendre cette décision. Et pendant ce temps, sachez que la Suisse, elle, accélère franchement dans son déconfinement. Dès lundi prochain, les terrasses de restaurants, les cinémas, les salles de sport vont rouvrir dans le pays. Et pourtant, la situation reste fragile sur le plan épidémiologique. C'est le gouvernement helvète lui-même qui le dit. Mais les autorités disent compter sur le comportement responsable de la population.
Écoutez le monde changer. Europe Soir, le 22-22-30.
L'incertitude, toujours dans les Vosges, sur le sort de la petite Mia, 8 ans, enlevée hier. Arthur Mbaché, vous êtes sur place pour Europe 1. On ne sait pas où se trouve l'enfant, mais on en sait un peu plus ce soir sur le déroulé de son enlèvement par trois hommes. Et il apparaît que sa maman pourrait être impliquée.
Un enlèvement sans violence, soigneusement préparé. Voilà ce qui s'est passé ici hier matin, détaillé tout à l'heure par Nicolas Heitz, le procureur d'Épinal. Les trois hommes qui ont kidnappé la petite Mia ont mis en œuvre un scénario bien ficelé.
Ils se présentaient comme des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, munis de papiers à l'en-tête du ministère de la Justice. Ils mettaient en confiance cette dame, en lui donnant d'ailleurs le nom d'éducateur qui existe réellement, et expliquait devoir conduire l'enfant à un rendez-vous dans leurs locaux à midi pour qu'elle y rencontre sa mère. Prise d'une mauvaise intuition, pour reprendre ses termes, la grand-mère vérifia ensuite auprès du service qui lui indiquait qu'aucun éducateur ne devait se présenter au domicile ce jour-là.
La mère de la fillette, une jeune femme de 28 ans, est elle aussi activement recherchée. Le contexte familial est lourd. Des violences, un refus de scolarisation de la petite, une forme de marginalisation, des projets de tout plaquer, partir en camping-car seule avec sa fille pour passer, comme elle l'a dit récemment aux services sociaux, en dessous des radars de la société. C'est tout cela qui avait abouti en janvier dernier au placement de la petite Mia chez sa grand-mère. Les Poulières, Arthur Mbaché, Europe 1.
Le meurtrier de Sarah Halimi ne sera pas jugé, c'est désormais certain. La Cour de cassation l'a confirmé aujourd'hui. Marion Dubreuil, l'homme qui avait défenestré cette sexagénaire juive il y a 4 ans, cet homme a été déclaré irresponsable pénalement.
Oui, le jour du meurtre, Kobili Traoré avait consommé beaucoup de cannabis et cela a provoqué chez lui une bouffée délirante aiguë. Deux experts psychiatriques sur trois avaient conclu à l'abolition de son discernement et donc son irresponsabilité pénale. La famille Halimi avait déposé un pourvoi en cassation qui a donc été rejeté. C'est une très grande déception pour Maître Oudy Bloch, l'avocat du frère de Sarah Halimi.
Comment vous voulez expliquer à la famille de Sarah Halimi que la personne qui a frappé à mort pendant 20 minutes Sarah Halimi avec des insultes, des cris d'Allah Akbar, qu'il a ensuite défenestré du troisième étage, que son comportement, que son discernement était aboli. Comment vous voulez expliquer que la chambre de l'instruction a retenu dans son arrêt la circonstance aggravante d'antisémitisme, mais que pour autant, il n'avait plus aucun discernement?
La famille Halimi envisage donc de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est une procédure formelle qui ne pourra pas mener à un procès pénal. La famille doit désormais tirer un trait sur l'espoir de voir le meurtrier de Sarah Halimi traduit en justice. De son côté, l'avocat de Kobili Traoré a salué une décision conforme au droit.
Merci Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Aux États-Unis, États-Unis. C'est l'auteur de la plus grande escroquerie financière de l'histoire qui est décédé aujourd'hui. Bernard Madoff s'est éteint à l'âge de 82 ans en prison, plus précisément dans le pénitencier de Caroline du Nord, où il purgeait une peine de 150 ans de prison, Alexis Guilleux.
Oui, à cause d'une arnaque à 65 milliards de dollars basée sur une pyramide de Ponzi, un montage financier qui rémunère les anciens clients grâce à l'argent apporté par l'arrivée de nouveaux investisseurs. Bernard Madoff a construit cet édifice pendant 20 ans et tout s'est écroulé en 2008 au moment de la crise financière. Des victimes dans le monde entier, aux États-Unis bien évidemment, mais aussi dans le Golfe Persique. Du jour au lendemain, des fonds d'investissement ont dû expliquer à leurs clients qu'ils avaient tout perdu. Alors comment ce système a-t-il pu exister ? Eh bien, Bernard Madoff était un financier très réputé, petit-fils d'immigrés européens. Il avait entamé sa carrière dans les années 60 pour devenir l'un des noms les plus connus, les plus influents de Wall Street. Fin 2008, il avoue cet énorme mensonge à ses deux fils qui le dénoncent. Après son procès très médiatisé l'année suivante, il est condamné à 150 ans de prison. Depuis, on savait que Bernard Madoff était en mauvaise santé. Il avait demandé une libération anticipée l'an dernier à cause d'une maladie rénale entrée en phase terminale. À l'époque, il s'était d'ailleurs confié au Washington Post et exprimé des regrets pour ses actes qu'il avait lui-même qualifiés de terribles erreurs.
Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les États-Unis, où Joe Biden vient d'annoncer, comme prévu, le retrait des troupes américaines d'Afghanistan d'ici au 11 septembre 2021, donc pour les 20 ans des attentats du 11 septembre qui avaient provoqué cette intervention militaire. L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique, ce sont les mots de Joe Biden, et il estime que son pays a rempli l'objectif, que l'Afghanistan ne serve plus à attaquer l'Amérique. Les États-Unis qui ont également un œil sur la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Sur ce sujet, on l'apprend aujourd'hui, Joe Biden a proposé au président russe Vladimir Poutine un sommet dans un pays tiers et le Kremlin s'est dit prêt à poursuivre le dialogue.
Europe 1, le journal de la nuit. Rémi Botsaron.
Un tiers au moins de la production viticole française sera perdue à cause de l'épisode de gel qu'a connu la France ces derniers jours. C'est le bilan affiché ce soir par la FNSEA. Selon le syndicat agricole, cela représente à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en moins pour la filière. Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, avait déjà estimé que cet épisode était probablement la plus grande catastrophe agronomique de ce début du 21e siècle. On se souvient de l'apprenti boulanger de Besançon, apprenti guinéen menacé d'expulsion, pour lequel s'était mobilisé son employeur. Il avait fait une grève de la faim avec succès. Eh bien, c'est un scénario similaire qui se dessine dans le Nord, à Grande-Synthe. Là aussi, un boulanger se démène pour éviter l'expulsion de son apprenti, Maya, 19 ans, et Niolel Gougelot, il est suivi par une partie de la population.
Non à l'expulsion de Maya.
Cliente habituelle de la boulangerie, Aïcha s'est jointe au rassemblement de soutien en faveur du jeune migrant, bouleversé par le destin de cet orphelin qui a traversé la Méditerranée il y a 4 ans, avant d'être placé ici en foyer.
Toutes ces personnes qui sont arrivées de l'étranger, dans un canot de sauvetage, du mieux qu'ils ont pu, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui ont leur place, il n'y a pas de raison, la terre elle est à tous. Je pense qu'ils méritent vraiment qu'on lui donne une chance.
Cette chance, ce serait une régularisation pour un apprenti boulanger qui suit régulièrement les cours du centre de formation et qui, depuis 3 ans, fait le bonheur de son patron, Salem Kalfat.
Et il pense à travailler, réussir, à arriver à faire mieux, toujours il veut mieux. Il a tellement envie de faire des choses dans sa vie. À mon avis, il réussira. Un garçon comme ça, on ne peut pas le jeter, et on ne peut pas le renvoyer, et on ne peut pas le perdre en France. On a besoin de jeunes comme ça.
Alors pour pouvoir passer son CAP, Maya espère maintenant un geste des autorités, lui qui n'imagine pas son avenir ailleurs qu'en France.
Je me suis intégré déjà, et j'ai été à l'école, j'ai mon travail, et j'ai une copine et on s'aime bien et on a l'avenir ensemble. J'aimerais bien ouvrir ma boutique plus tard, devenir patron et ouvrir ma boulangerie. C'est mon objectif aussi.
Et les soutiens se multiplient. Une pétition lancée ici pour la régularisation du jeune Guinéen a déjà recueilli près de 20 000 signatures. À Grande-Synthe, Lionel Gougelot, Europe 1.
Le sport et le football, quel adversaire pour le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions ? Eh bien, pour le moment, c'est Manchester City. City qui obtient pour le moment le match nul sur le terrain du Borussia Dortmund. Les Anglais viennent d'égaliser un but partout. On joue la 55e minute de jeu. Il reste donc 35 minutes à jouer dans ce quart de finale retour. Dans l'autre quart de finale retour de la soirée, match nul pour l'instant 0-0 entre Liverpool et le Real Madrid. Et c'est donc le Real Madrid qui, pour le moment, est qualifié pour ses demi-finales de la Ligue des Champions. Les stars du football réunies ce soir donc sur les pelouses et les stars de la musique réunies dans une chanson, deux stars précisément, sur ce morceau qui va faire du bien pour finir ce journal. Vous les reconnaissez peut-être, Mick Jagger et Dave Grohl en duo. C'est le leader des Rolling Stones et celui des Foo Fighters, tout simplement ensemble sur cette chanson qui vient de sortir et qu'on va écouter encore un petit peu. Le titre s'appelle Easy Sleazy. Easy Sleazy, donc, ce duo et important duo et impressionnant entre le leader des Rolling Stones et celui des Foo Fighters. Si vous écoutez bien les paroles en plus de la musique, vous constaterez que les deux stars se moquent gentiment de la vie en temps de pandémie, des danses ridicules sur TikTok, des visioconférences et aussi des théories du complot. Voilà de quoi se moquent Mick Jagger et Dave Grohl dans ce titre qui vient de sortir. On passe à une autre star, celle de la météo tout de suite, Anissa Haddadi. Demain, une journée qui sera plus ensoleillée à l'ouest.
Oui, de la Bretagne au Pays Basque, hein, sur tout le long de la façade ouest, le soleil brille toute la journée dans un ciel complètement dégagé. Ailleurs et surtout le long de la façade est, là nous avons un ciel un petit peu plus nuageux avec demain après-midi dans les Vosges, le Jura et les Alpes, le retour de la neige à partir de 700 mètres d'altitude. En Provence, les nuages apportent là aussi quelques petites ondées, on a un ciel un petit peu plus menaçant dans le sud-est. Et puis sur toute la moitié nord du pays, nous avons le vent du nord qui reste sensible et qui souffle jusqu'à 50 km/h demain. Ce vent du nord, il va renforcer la sensation de froid. Déjà que les températures sont basses, puisque nous avons encore des gelées matinales demain, avec moins 5 à Montluçon, moins 4 à Nevers, moins 3 pour Clermont-Ferrand, moins 2 à Belfort, moins 1 à Mont-de-Marsan, un petit degré pour Paris, Lille et Nantes, 3 pour Ajaccio et 8 à Nice. Dans l'après-midi, c'est stationnaire, quasiment les mêmes températures qu'aujourd'hui, avec 8 degrés à Dunkerque, 11 à Lille, 12 à Paris. Dans le sud, il fait un petit peu meilleur avec 13 degrés à Lyon, 15 à Toulon, 16 à Bordeaux et jusqu'à 18 degrés à Montpellier.
Merci pour ces prévisions, Anissa Haddadi. Europe 1. Vous ne bougez pas, évidemment, dans un instant, on fait le point sur les places financières. Puis ce sera l'interview écho d'Emmanuel Duteil avec ce soir Thierry Millon, directeur des études chez Altares. Ils évoqueront ensemble les premiers signaux d'alerte sur les faillites des entreprises. A tout de suite. Il est 22h passé de 17 minutes précisément sur Europe 1 et c'est l'heure de faire un point sur leur bourse avec vous, Didier Hamot de Boursois.com.
Oui, bonsoir Rémi.
Bonsoir Didier. Wall Street varie peu ce soir à la clôture malgré les bons résultats des banques américaines.
Oui, oui, beaucoup d'hésitations ce soir à Wall Street. Le Dow Jones plus 0,16%, 33 731 points. Le Nasdaq, l'indice des valeurs de technologie, baisse de pratiquement 1%, moins 0,99%, 13 858 points. Malgré les bons résultats trimestriels de JP Morgan et de Goldman Sachs, les banques, effectivement, sont plutôt partagées, en baisse pour JP Morgan d'1,9%, en hausse de 2,3% pour Goldman Sachs. Les valeurs de technologie, donc, reculent. Apple, moins 1,8%, 132 dollars. Facebook, moins 2,2%. Google perd 0,5%. Mais la vedette, la star du jour, c'est Coinbase, la plateforme de négociation de crypto-monnaies qui débarque aujourd'hui à Wall Street. Les premières cotations ont donné une valorisation de quelques 100 milliards de dollars à plus de 380 dollars par action, ce qui illustre l'appétit actuel des investisseurs pour les monnaies numériques. Le groupe de San Francisco Coinbase, créé en 2012, revendique déjà plus de 53 millions d'utilisateurs. À noter d'ailleurs que le Bitcoin a culminé aujourd'hui à 62 000 dollars. C'est un sommet historique hein, pour le Bitcoin. Le pétrole aussi remonte, il remonte de 3,7%. Le pétrole est à 66,30 dollars après une baisse surprise des stocks américains. Et puis l'euro progresse légèrement, mais progresse quand même à 1,1975 face au dollar.
Et la bourse de Paris, elle a terminé au-dessus des 6200 points sur le CAC 40, au plus haut depuis 20 ans.
Ben oui, plus 0,4%, ça a suffi pour franchir donc cette barre symbolique des 6200, 6208 points exactement sur le CAC 40 ce soir, au plus haut effectivement depuis novembre 2000. Le marché continue d'anticiper une sortie de crise à l'horizon du second semestre. Et puis les premiers résultats trimestriels rassurent les investisseurs. À l'image d'LVMH, le groupe de luxe gagne ce soir 2,8%, 611,80 €. C'est un nouveau sommet là aussi pour LVMH après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel qui a grimpé de 32% à 13,9 milliards d'euros. Les valeurs pétrolières aussi remontent dans le sillage du baril de brut. Donc Vallourec plus 5%, CGG plus 3,7% et Total gagne 1,1% à 38,30 €.
Mais il y a tout de même une exception, hein, c'est le titre d'Air France qui a encore perdu du terrain.
Toujours encore, oui, encore en baisse. Moins 2% Air France KLM à 4,94 € seulement. Toujours plombé par l'annonce récente d'une augmentation de capital d'1 milliard d'euros environ, à 4,84 € par action. Le groupe aérien tente de restaurer sa situation financière mise à mal par la crise sanitaire. Air France KLM ce soir encore en baisse de 2%. Les autres places financières sont plutôt en hausse, en légère hausse, 0,4% à Bruxelles, plus 0,7% à Madrid. Et puis donc le CAC 40 en hausse de 0,4%, 6208 points.
Merci pour ce tour d'horizon, Didier Hamot de Boursier.com. 22h20 sur Europe 1, l'heure de l'interview Écho avec vous, Emmanuel Dutheil.
Bonsoir Thierry Millon.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur des études d'Altares. Alors Altares, on ne connaît pas obligatoirement très bien, mais vous êtes la référence en matière de comptage pour les faillites d'entreprises. Et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que vous avez publié ce matin vos chiffres pour le premier trimestre. Alors, si on les regarde comme ça de façon un petit peu brute, on pourrait se dire « tout va bien, tout va même ». Très bien, le nombre de faillites est à nouveau en très forte baisse et on est sur des niveaux historiquement bas. Il n'y a pas de faillite pour le moment en France. On peut le résumer ainsi ?
Vous dites de nouveau en baisse et vous avez bien raison parce que la situation est de cette nature depuis le mois de mars de l'année dernière, depuis le mois d'avril plus précisément. Souvenons-nous, il y a un an, nous sommes confinés. Il y a une première réaction qui consiste à fermer les juridictions et parmi lesquelles les tribunaux de commerce qui ont réussi à proposer des alternatives, notamment d'audience en visio, qui a permis malgré tout de sauver quelques entreprises parce qu'il est nécessaire malgré tout d'aller au tribunal. Pour autant, depuis avril, nous avons des tendances à deux chiffres tous les mois, sans arrêt, jusqu'à maintenant, jusqu'au mois de février, avec des tendances sur le premier trimestre de moins de 30%, un peu plus. Nous avions l'année dernière 3500 défaillances de plus, il y en a 7400 ce trimestre. Donc c'est évidemment une première nouvelle, parce que c'est autant d'emplois préservés. Chaque entreprise.
Ça peut paraître fou quand on entend ça, alors que tous les jours, à la une des journaux, on voit crise, difficultés pour les entreprises. Ça s'explique simplement, c'est que pour le moment, les entreprises sont énormément aider, que ce soit les prêts garantis par l'État ou toutes les autres mesures qui ont été mises en place.
Les entreprises sont aidées, les entreprises sont accompagnées. Il y a évidemment les aides de l'État, il y a le soutien des territoires, des collectivités, des régions, des mairies parfois. Donc tout ça évidemment œuvre à ce que l'entreprise puisse tenir. Il y a aussi un phénomène qui est important, qu'on connaît probablement un peu moins généralement, mais qui est important, c'est celui qui définit que les entreprises ont aussi la possibilité de décaler, reporter le paiement de leurs cotisations. Et c'est important parce que lorsque on regarde la nature des procédures qui sont engagées, la raison pour laquelle les entreprises se présentent devant le tribunal, historiquement, enfin traditionnellement plutôt, dans 30 à 40% des cas, les entreprises vont au tribunal assigner contrainte sur un recouvrement forcé. Cette démarche-là, elle n'existe plus depuis le mois de mars dernier. Ça veut dire que les entreprises qui se présentent au tribunal de commerce se présentent au tribunal d'elles-mêmes.
Ce qui explique par ailleurs que quand elles arrivent, c'est qu'elles vont quasiment toutes à la faillite parce que les rares qui viennent aujourd'hui au tribunal de commerce, elles coulent. Il n'y a pas de sursis pour elles.
Bien évidemment, elles se présentent traditionnellement, les entreprises traditionnellement tardivement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, reconnaissons-leur le doute, c'est-à-dire que nous sommes depuis de nombreux mois dans une phase où on a l'impression de voir le bout du tunnel à un moment et paf, on replonge. C'était le cas du deuxième confinement après la reprise qui s'amorçait très bien. Et puis nous avons sur ce début d'année un troisième confinement et donc là, au bout du bout, pourquoi pas un quatrième ou un cinquième. Donc les entreprises qui ont tenu jusqu'à jusque-là. Et pour certaines d'entre elles qui sont rentrées dans le Covid, fragilisées malgré tout, hein, n'oublions pas que les entreprises ont rarement beaucoup de fonds propres. Donc ces entreprises-là sont au bout, et derrière ces entreprises, il y a aussi des hommes, des femmes, des dirigeants, des salariés qui, eux aussi, sont au bout.
Et puis là, c'est les secteurs où on sait que ça ne va pas obligatoirement repartir. On peut citer l'événementiel, les agences de tourisme ou ce genre de choses. Là où on est dans des secteurs où on ne peut pas se dire que du moment même où on va rouvrir, comme par exemple les restaurateurs, ça devrait repartir à peu près normalement.
Bien sûr, sachant que paradoxalement, ce sont des entreprises qui sont aujourd'hui protégées, puisque justement, elles sont fermées, mais largement accompagnées. On a des difficultés sur des secteurs plus inattendus, par exemple l'optique qui n'est pas fermée et qui, malgré tout, présente des difficultés. Nous avons des difficultés sur les entreprises qui apportent du conseil, la publicité, régie pub, mais aussi conseil en communication. Donc, on voit bien que les entreprises qui sont qui ont la capacité de mettre en place un business n'ont pas en face d'elles la capacité clients qui leur permet d'équilibrer leur compte. Il y a ensuite évidemment le phénomène de la reprise, en espérant qu'elle arrive naturellement, fortement, mais pas d'un grand coup, progressivement encore une fois. Ça va permettre, par exemple, vous parliez des restaurateurs qui vont réouvrir, on en a tous envie. Le restaurateur, pour autant, va avoir bien évidemment besoin de clients, de consommateurs, dont ils ont dit, et nous en faisons partie, qu'ils attendent évidemment avec impatience la ouverture. Mais dans le même temps, si le restaurant qui a l'habitude de proposer 50 couverts le soir n'a le droit de n'en proposer que 30 pour des contraintes sanitaires, comment est-ce qu'il atteint son point d'équilibre ?
C'est là où l'adéquation des aides en fonction de la réalité économique des processus de réouverture va être indispensable, parce que de ce qu'on entend et de ce qu'on dit depuis le début de cette interview, on est donc au plus bas au niveau des faillites d'entreprises, mais on pourrait se dire c'est reculer pour mieux sauter une fois qu'on va enlever toutes ces aides. Là, de ce que j'entends, de ce que vous dites Thierry Mignon, faisons attention et enlevons ça progressivement pour essayer de que la machine économique reparte et que ça relance le tout.
Exactement. Idéalement, il faudrait débrancher progressivement au rythme du retour d'activité. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut une attention aiguisée et il faut des outils pour savoir sur chaque entreprise comment le retour s'opère. Donc ça, c'est pas possible. En revanche, il s'agit bien évidemment de s'assurer que les entreprises viables resteront debout. C'est pas parce qu'une entreprise est viable qu'elle peut tenir la reprise. La reprise, c'est une période très gourmande en trésorerie. Parce que prenons le restaurant par exemple. Le restaurant qui a fermé depuis un an doit au moment de la reprise ne serait-ce que remplir le frigo. Ça paraît un détail, mais c'est quand même de l'argent qu'il faut dépenser avant que les clients ne reviennent pour remettre du chiffre qui permettra de retrouver la trésorerie. Donc ce passage jeton est important, et s'agissant des entreprises viables, ce sont des entreprises qui sont sur un modèle économique qui a fait ses preuves, sur des entreprises qui ont des carrés de commandes et qui sont engagées sur des voies de développement. Pour autant, elles ont aujourd'hui une panne de trésorerie, une panne d'activité. Il faut les aider pour s'assurer qu'elles seront au rendez-vous encore en 2022-2023 pour créer de l'emploi notamment.
Eh bien, on suivra tout ça. Un grand merci en tout cas Thierry Mignon. Je rappelle que vous êtes le directeur des études chez Altares, un spécialiste notamment des faillites des entreprises. Nous, on se dit à demain, 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. On vous retrouve aussi demain, évidemment, de 13h à 14h avec Elisabeth Azayag pour La France Bouge. Et demain, vous parlerez apéro et snacking. Et votre invité sera le patron du groupe Aost. Vous restez avec nous. Dans un instant, on jette un coup d'œil, comme tous les soirs, la une de vos journaux de demain. Les unes de la presse de demain, ce qui vous attend dans vos kiosques à journaux, eh bien, on va commencer par, on va dire, la tonalité optimiste qui s'affiche en une des Échos et de Ouest-France, deux titres que nous avons déclinés dans ce journal de 22h. D'abord, à la une des Échos, dette d'entreprise, la proposition choc de Bercy, qui revient donc sur cette proposition de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui se prononce pour une annulation partielle et au cas par cas des dettes d'entreprise, qui serait un grand bol d'air pour beaucoup de ces entreprises touchées par la crise économique. Évidemment, la une de Ouest-France, cette question, terrasse, lieu culturel, réouverture à la mi-mai, ce serait là un bol d'air évidemment pour les cafetiers et ceux qui tiennent des restaurants, également pour les propriétaires de théâtre ou de cinéma. La question qui se pose, puisque demain Emmanuel Macron, le président de la République, doit se réunir avec plusieurs ministres pour évoquer les modalités d'une éventuelle réouverture donc de ces lieux, des terrasses et des lieux culturels à la mi-mai. Tonalité beaucoup plus pessimiste à la une de l'Humanité et de Libération. Ça concerne la France et ce cap des 100 000 morts qui va être franchi dans le bilan français du Covid-19. À la une de l'Humanité, cette photo d'une chambre d'hôpital comme on en a vu beaucoup depuis le début de cette crise. En une donc de l'Humanité, 100 000 morts, l'effroyable bilan, titre le journal, alors que Libération titre de son côté sur la tragédie brésilienne, 3 000 morts par jour en moyenne et une gestion ahurissante de la crise par le président Bolsonaro. À la une donc de Libé, le Brésil qui pose question avec ses multiples variants également, et on sait que les liaisons aériennes sont désormais interrompues entre le Brésil et la France. Et puis nous n'avons pas encore la une de l'Équipe pour demain évidemment, mais dans l'Équipe vous retrouverez sans doute l'identité de futur adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Et pour l'instant, eh bien, ce sera Manchester City qui tient toujours le match nul sur le terrain du Borussia Dortmund en quart de finale. Il reste 18 minutes à jouer sur le terrain des Allemands. Il est 22h passé de 30 minutes sur Europe 1. Évidemment, tout de suite, vous retrouvez la Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Rémi.
Et un numéro toujours pour vous rejoindre, le 39-21.
Exactement. Et nous, on se retrouve dans une petite demi-heure pour votre flash.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.